nouveau magazine mensuel de la rédaction de Radio Nîmes consacré à l'actualité culturelle nîmoise. Pour notre émission du mois de mars, nous vous proposons, chères auditrices et auditeurs, de découvrir avec vous de nouveaux rendez-vous à nos micros pour vous parler de la culture nîmoise et sa région. Ce magazine est diffusé tous les deuxièmes mercredis de chaque mois et en rediffusion le quatrième mercredi de chaque mois de 15h à 16h. Nous traiterons de l'actualité du cinéma, de la littérature, de la musique, du théâtre, des arts visuels, expositions, conservateurs, directeurs de musées, chargés de la culture et artistes seront mis en valeur en fonction des actualités qui traversent notre temps et le milieu de la culture nîmoise. Pour aujourd'hui, nous attendons à nos micros Jean-Sylvain Mycène sous la direction de Bernard Mouret et de Madame, comment elle s'appelle ?
Anne Bousmich.
Voilà, pour une académicienne de Nîmes, je crois, et pour une prochaine conférence. En attendant, je vous passe le micro, Bernard. Et bonne journée, à tout à l'heure.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes avec l'accent pour une nouvelle émission. Et comme d'habitude, on commence par le cinéma. Alors, chaque année, il y a la semaine des écrans britanniques, mais cette année, il sera encore beaucoup plus fourni parce qu'il y aura aussi les Irlandais, n'est-ce pas, Jean-Sylvain Mycène ?
Oui, bonjour. Oui, c'est ça. C'est sur 10 jours, parce que ça commence un vendredi, ça finit un dimanche. Et effectivement, cette année, l'association partenaire du festival qui organise le festival, qui s'occupe de toute la gestion des invités et tout ça, c'est pas un travail que le Sémaphore fait tout seul. Ils ont changé de nom, c'est-à-dire que c'était les écrans britanniques, ils ont rajouté « et irlandais ». Pour des histoires de communauté européenne, vous savez toutes et tous que l'Angleterre a choisi de quitter la communauté économique européenne. Donc les Irlandais se sont dit, ben, il y a peut-être un peu une place à occuper là, au niveau, pour faire connaître notre culture et notre cinéma. Donc voilà, on va en profiter avec nos cousins irlandais. On est très fiers quand même d'avoir battu samedi dernier au rugby. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le sport et le gazon, il y a aussi le cinéma et les écrans.
Et il y a aussi la musique, parce que j'ai vu qu'il y a un documentaire sur Brian Jones,
oui,
y a et les Rolling Stones, je crois, ne pas manquer.
Voilà, il y a aussi la musique, beaucoup de choses effectivement pendant ce festival. Alors, je saute sur l'occasion, puisqu'on est une radio et qu'on écoute beaucoup de musique. Effectivement, un documentaire assez exceptionnel sur Brian Jones, qui, je ne sais pas si vos auditeurs et vos auditrices le savent, c'est le créateur des Rolling Stones, c'est-à-dire que c'est lui qui a monté le groupe au tout début des années 60 et qui a été le premier à quitté parce qu'il a abusé de substances illicites, comme on dit. Il est devenu carrément un peu dingo, donc les deux leaders, Mick Jagger et Keith Richards, l'ont mis de côté avec leur producteur de l'époque. Et ce film donc s'attache à cette création, c'est-à-dire à la création des Rolling Stones, avec moi je connais assez bien l'histoire des Rolling Stones. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'images que j'avais jamais vues, avec énormément de témoignages de l'époque et notamment du premier bassiste des Rolling Stones qui s'appelle Bill Wyman, qui est un petit peu plus âgé que l'ensemble des Rolling Stones, même si maintenant ils sont très vieux, parce que ça fait quand même très longtemps qu'ils sont sur la route.
Ils sont toujours très bons.
Voilà, ils sont. Ouais, je suis moins d'accord avec vous, mais c'est pas très grave. Et surtout, il y a ça. Et comme vous savez, si vous êtes aimé la musique, on a, et c'est une autre partie de la sélection du festival, un hommage à Marianne Faithfull, qui était la compagne de Mick Jagger. Et dans ce documentaire, on voit aussi énormément Marianne Faithfull, qui est jeune. Donc on a profité, si vous voulez, de cette occasion, à la fois sur ce documentaire qui sortait en France, l'hommage à Marianne Faithfull pour regrouper ça. Et on a la chance d'avoir quelqu'un que je connais assez bien, qui s'appelle Claude Chastanier, qui est un spécialiste de la musique contemporaine et de la culture anglaise et américaine, qui est un puits de science, qui est un universitaire qui est absolument passionnant et qui vient dimanche donc présenter le documentaire sur Brian Jones et un film dans lequel Marianne Faithfull joue, qui s'appelle Irina Palm, qui est absolument merveilleux, qui est un film qui parle d'une grand-mère qui est prête à tout pour essayer de sauver la santé de son petit-fils.
Et vous projetez également le film qui a fait connaître James Ivory aux Français, en tout cas, donc à ma propre personne, qui est Chambre avec vue.
Oui, Chambre avec vue. Alors c'est la sélection de l'organisation du festival se se déroule à plusieurs thèmes. Il y a l'actualité, donc les films en avant-première qui vont sortir dans les semaines qui viennent, qui sont là la partie organisée par le Sémaphore. Et puis il y a des hommages. Donc il y a, on a parlé de Marianne Faithfull. Il y a aussi un hommage à l'immense actrice qui s'appelle Maggie Smith. Et Maggie Smith fait partie de ces actrices qui ont joué dans les premiers films de Jane Favorite, qui était, contrairement à ce qu'on beaucoup de gens pensent, c'est un réalisateur américain et pas anglais. Il a fait quasiment que des films américains avec la anglais où on voit la belle oui, campagne et tout, voilà, britannique. Et donc voilà, donc c'est aussi effectivement dans le cadre de l'hommage à Maggie Smith qu'on passe chambre avec vue. Il y a une autre thématique dans le festival, c'est la place des gens de peau noire dans le cinéma britannique qui sont... ça a été très compliqué pour trouver des films. Il y a très très peu de films et on se dit toujours qu'on se moque peut-être un peu des Américains quand ils sont là avec les Oscars. Il faut mettre une personne noire, une personne japonaise, une personne homosexuelle, une personne handicapée. Une espèce de quota, on trouve ça peut-être un petit peu exagéré, mais quand on cherche dans notre propre cinéma français et dans le cinéma britannique, il y a quand même des absences notoires alors qu'ils ont eu une importance. Ben, on reparle de musique par exemple, on sait que les Clash ont été considérablement influencé par la musique jamaïcaine. La musique jamaïcaine, c'est les Noirs. Donc voilà, on va parler aussi de tout ça et c'est ce genre de choses qui sont extrêmement intéressantes.
Alors on rappelle que cette semaine se tient du 14...
C'est du 14 au 23, ça commence l'inauguration et ce vendredi qui arrive là, et donc jusqu'au dimanche soir prochain. Donc il y a le programme qui est sur Internet, il y a le programme du Sémaphore. Bon, je pense que la presse locale va aussi bien suivre, donc voilà, il y a plein de rendez-vous. Le festival se déroule dans trois lieux, donc au Sémaphore particulièrement, parce que c'est quand même la salle de cinéma, et il y a des séances qui ont lieu à Carré d'Art et dans la salle Thérisse du lycée Daudet. Et c'est vrai que ça permet un complément parce qu'il y a, notamment pour des thématiques, des films qui n'existent plus en version cinéma, entre guillemets, et qui peuvent être projetés voilà, sur des formats Blu-ray ou DVD. Et ça permet quand même de renforcer la programmation et de compléter les différents hommages.
Les films français se portent également très bien, hein, puisque je crois que vous continuez le visionnage de Enfant Phare, bon, d'Emilia Pérez.
Oui, alors c'est vrai que cette année ça a été particulièrement brillant pour le cinéma français. Les deux premiers films en tête du box-office sur l'année 2024, c'est Un petit truc en plus et le Comte de Monte Cristo. Je trouve qu'il y a une tendance qui me plaît beaucoup depuis quelques mois, c'est que les carrières des films sont en train de se rallonger, c'est-à-dire que c'est le public et le bouche à oreille qui fait la carrière d'un film et pas simplement la présence d'un acteur, d'une actrice ou d'un réalisateur ou d'une palme d'or. Bon, ça aide, c'est tout mélangé, mais je trouve que quand, par exemple, vous avez cité Enfant Phare, c'est vraiment un film que le public a décidé d'aller voir. C'est un film que j'aime bien, où il y a des émotions, on parle de culture, on rigole. C'est un film pour moi assez complet. Et c'est vrai que c'est le prototype même de film qu'on a envie d'avoir tous les 3-4 mois à l'affiche pour pouvoir dire aux gens, mais allez-y, c'est génial, vous allez rire, vous allez pleurer. Et ça, quand on a un film comme ça à l'affiche, c'est vraiment... on a l'impression de bien faire son boulot, on donne des émotions aux gens, donc on redonne un petit peu un sens positif à notre métier qui a, on en a parlé à ce micro, quand même été rudement bousculé par le Covid, et on est encore en période de reconstruction. Donc c'est vrai que ces films-là donnent envie de dire bon, on a raison de se battre, ça existe. Vous parlez d'Emilia Pérez, a été présenté au Festival de Cannes, a fait quasiment un parcours sans faute, en tous les cas jusqu'au César. Ça s'est un peu arrêté avec les Oscars. Là, c'est une polémique qui dépasse un petit peu par rapport à des tweets de l'actrice principale. Mais c'est vrai que Jacques Audiard, il a fait un film mexicain en anglais et en espagnol et s'est tourné dans un studio dans la banlieue parisienne. Donc voilà, c'est là aussi où on voit un peu la magie du cinéma et le savoir-faire de quelques talents. De nous faire complètement embarquer dans une histoire que moi je trouve sensationnelle.
Oui, alors on parlait de Enfant Phare, je crois qu'il y a L'Attachement, non, qui suit un petit peu cette voie-là.
Il y a L'Attachement qui a l'air d'être une belle carrière. Il y a À Bicyclette aussi qu'on sent pointer son bout de son doigt. On voit assez vite dans la discussion avec les gens, soit à la caisse du cinéma, soit dans la rue, soit au hall, on sent tout de suite les gens qui nous disent « Ah, moi, je suis allé voir ça, c'est vachement bien, je l'ai conseillé à mes voisins. » voilà. Donc, on sent comme ça prend comme ça le bouche à oreille. Et là vraiment, on fait un métier extraordinaire quand on a ça, parce qu'on a le retour d'un public qui est content de venir nous voir, qui est donc, on se dit… C'est super, quoi, parce que quand on donne de l'émotion et que les gens trouvent qu'ils ont passé un beau moment dans notre endroit, ben on est content de faire le métier qu'on fait, et on a l'impression de bien le faire, donc c'est très valorisant. Donc du coup, on a plus la pêche, on a plus d'idées, donc ça, on a le sourire à la caisse, les gens sont là, la météo nous aide bien, parce qu'il fait quand même un temps pourri sur les week-ends depuis je sais pas combien
de semaines. Mais c'est de votre faute,
hein, voilà. C'est le week-end aussi. Alors,
je sais pas si c'est notre faute, mais en tous les cas, j'ai pas du tout honte de dire qu'on en profite. Les travaux autour du cinéma et dans les rues adjacentes sont finis, donc c'est quand même hyper agréable pour faire la queue, même si on est un peu dehors. Il n'y a plus de voitures, donc ça, il y a des... Je pense qu'il faut dire aussi, quand on est un peu dans le positif et que les clignotants sont dans le vert, on a suffisamment de raisons pour s'alarmer dans le monde actuel. Je trouve que quand on va bien et que les choses sont positives, il faut aussi le dire, parce que ça met du baume au cœur.
C'est une très très belle conclusion. Alors sur les émotions, oui, il y a également l'histoire de Souleymane aussi, hein, qui est un très beau film à voir.
Voilà, ça, il y a deux.
Qui complète, voilà. Et là, on est bien.
Deux séances
dans
de
le
rattrapage
positif.
Ce soir et demain. Oui, qui a aussi triomphé au César, donc beaucoup de choses, effectivement.
Oui, alors on continue dans les bonnes choses. Alors on parlait des Rolling Stones. Il y a un groupe montpellierain qui est fan des Rolling Stones qui s'appelle Boomerang, et je vous propose un morceau.
Pose la question entre vous et moi. J'aimerais
De retour dans le studio Jean-Orsi de Radio Nîmes 92.2 sur les ondes ou radionime.fr sur internet, mais toujours Radio Nîmes avec l'accent. Alors nous avons auprès de nous une académicienne nîmoise qui s'appelle Anne Brousse-Miche, et je vais lui demander de nous raconter un petit peu l'académie, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et bon, comment ça se passe.
Oui, merci. Je vous remercie donc de me recevoir ici. Bon, avant de parler de l'académie, je viens ici pour faire l'annonce d'une communication qui est proposée par l'Académie de Nîmes. Et j'y suis à double titre, si vous voulez, d'une part en tant que membre correspondant et d'autre part comme fille d'un philosophe qui est le sujet de cette communication. Voilà. Donc, effectivement, un petit mot sur l'académie, si vous le voulez bien. Parce que sans cette académie, ça ne pourrait pas avoir lieu, évidemment. L'académie de Nîmes a une histoire très ancienne, puisqu'elle a vu le jour en 1682 sous Louis XIV, et elle est l'une des plus anciennes de France, après l'académie française, qui date de 1635, et celle d'Arles de 1668.
Oui, à l'époque on disait que c'était des sociétés savantes, hein, c'est
voilà,
ça, c'était
oui,
le terme.
Voilà, art et lettres en particulier. Donc, fruit d'une longue histoire, et on ne peut pas tout dire évidemment là en quelques mots, et donc notre site internet est extrêmement bien actualisé et très fourni, donc j'invite vos auditeurs à consulter le site de l'Académie, academiedenimes.org. Voilà. Alors donc, fidèle à cette tradition, elle travaille à l'enrichissement du patrimoine culturel, régional et national. Elle est composée de nombreux membres, dont on évoquait tout à l'heure.
Oui, alors il y a les membres résidents.
Il y a 60 académiciens. 60 académiciens. Hein, donc c'est un nombre très, très précis. Chacun y a un fauteuil numéroté, un peu comme à l'Académie française. Donc composé de membres, 36 résidents à Nîmes et agglomération, et donc 24 membres non résidents, plus des membres correspondants dont je fais partie, dont le nombre n'est pas aussi fixé, hein. C'est un nombre illimité, même si tout le monde n'est pas admis. Voilà.
Mais par contre, je crois qu'il n'y a que 15 femmes, non, sur tous les...
Je crois qu'il y a un peu plus.
Un peu plus, on m'avait dit 15 femmes sur les... Bon, là, tout compris, et sur les résidents, 9 seulement.
Écoutez,
je
n'ai pas fait le compte, ouais, de toute
je
façon.
Crois que
donc,
ça.
Voilà. Donc, on sait tenir notre place, et je dirais que... Voilà. Donc,
et la présidente est une femme.
Voilà.
Puisqu'il s'agit de Francine Cabanne.
Il y a eu plusieurs femmes qui ont été présidentes. Et notre présidente actuelle, qui vient d'être nommée, ce sont des présidences qui duraient un an. Hein, c'est donc Francine Cabanne qui a été élue présidente. Voilà, sinon, il y en a eu effectivement d'autres.
Je crois
d'autres.
Qu'il y a eu 10 présidentes, non, c'est
voilà,
ça, ou
pardon.
Quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a eu 10 présidentes.
Oui, en fait, dans les
dans
dernières.
La première,
parce que moi, je suis là depuis 8 ans seulement, si vous voulez. Donc, il y a quand même eu... J'ai connu 3 femmes présidentes. Il y a eu Simone Mazurik, qui d'ailleurs m'a reçue lorsque je suis entrée en 2018 à l'Académie. Donc, Simone Mazurik. Ensuite, il y a eu Anne Hénaud. Il y a 2 ans, et donc actuellement, pour d'accord. cette année, c'est Francine Cabanne.
D'accord, et la première, c'était Mademoiselle Lavandès en 1957.
Oui.
Donc il a fallu
oui,
attendre
oui.
quand
oui.
même 300 ans.
Oui,
pour,
oui. mais maintenant, bon, les portes sont plus ouvertes aux femmes, heureusement. L'Académie s'occupe des domaines les plus divers, et les thématiques les plus variées font l'objet de conférences mensuelles et qui ont lieu dans son hôtel nîmois, 16 rue Doré à Nîmes. D'autres qui sont sur des thématiques plus larges sont ouvertes au public et qui est accueillies pour l'occasion dans des lieux connus de tous, comme le Carré d'Art, l'auditorium du Musée de la Romanité ou la salle Théris du lycée Daudet. Et c'est ainsi que l'an dernier, nous avons ouvert 2 séances publiques à tous qui ont connu beaucoup de succès. Il y a eu un hommage à Gaston Boissier, académicien nîmois qui est devenu membre de l'Académie française et son secrétaire perpétuel. Et un hommage aux sœurs Claire et Marguerite Long, qui sont des grandes musiciennes nîmoises, qui s'est lu en décembre 2024. D'autre part, elle n'est pas dans son petit coin à Nîmes toute seule. Elle est intégrée au réseau national des académies des sciences, lettres et arts, qu'on appelle CNA, Conférence nationale des académies. Et elle tisse des liens aussi avec des villes étrangères, par exemple en ce moment avec l'Académie de Vérone, ville où le Nîmois Jean-François Séguier a laissé une empreinte très importante. Et c'est dans ce contexte donc que l'Académie propose une communication ouverte au public afin de rendre hommage à un philosophe qui a commencé sa carrière comme enseignant au lycée d'Audet entre 1951 et 1965, Jean Svejelski. Donc c'est à ce titre aussi, si vous voulez, que j'interviens, puisque en tant que fille et fille unique, j'interviens sur une première partie du programme qui concerne la biographie, évidemment. Donc voilà.
Alors qui était Jean Svejelski?
Voilà, Svejelski. C'est un nom enfin, d'origine, si vous voulez, il remonte au 19e siècle. Ses parents des ancêtres sont venus en fait de Biélorussie, hein, qui appartenaient à l'époque à l'Empire russe, hein, du temps des tsars russes, et qui ont été contraints de fuir malheureusement de leur pays. Et donc mon père est né à Paris en 1900. Donc c'est un nom d'origine biélo-slave. Hein. Voilà. Donc mon père a donc été enseignant au lycée d'Audet, et c'est de là, si vous voulez, que tout est venu d'ailleurs, parce que lorsque je suis arrivée à Nîmes il y a 8 ans, et intronisée, je dirais, à l'académie, il y avait certains anciens élèves qui l'ont su, et donc il y a eu une concordance de faits qui ont permis cette communication qui va donc avoir lieu. Ces anciens élèves nîmois, à l'académie ou aussi à l'extérieur, ont été tellement marqués par cet enseignant qu'ils ont eu que on a voulu l'académie a souhaité lui rendre hommage, et donc Simone Mazurik, qui est philosophe aussi, a tenu à ce que, en faisant appel à moi, à ce que cet hommage puisse avoir lieu. On parle d'hommage, si vous voulez, parce que en fait Jean Svejelski aurait eu 100 ans en décembre 2024, étant donné qu'il est né en 1924. Donc c'est hommage.
C'est l'anniversaire de sa naissance.
Voilà. Donc,
alors est-ce que Jean-Pierre Milovanov qui va intervenir, est-ce que c'est un de ses anciens élèves ou pas?
Oui, bien sûr. Voilà. Donc alors, pour parler un petit peu de Jean Svejelski, pourquoi? C'est pas seulement parce qu'il était un enseignant, je veux dire, des enseignants admirés par leurs élèves, il n'est pas le seul, heureusement, mais au-delà de cette admiration toujours aussi vive et durable dans le temps de ses élèves pour ce pédagogue, de Nîmes à Dijon, puisqu'ensuite nous sommes partis sur Dijon, où il a exercé ensuite, il a contribué au niveau national, au renouveau des contenus de l'enseignement de la philosophie, à la formation des professeurs et à leur recrutement en France comme inspecteur pédagogique et comme membre de jury de CAPES et d'agrégation. Alors, aussi son importance, il se trouve que dans l'histoire, il a été élève, disciple et ami du philosophe Gaston Bachelard, puis dans le sillage de son maître Georges Canguilhem, et aux côtés du philosophe François Dagonier, il a contribué à l'essor et à la reconnaissance en France et au-delà de la recherche en histoire et en philosophie des sciences et des techniques. Donc la philosophie était pour lui la discipline clé qui permettait d'établir un pont entre la connaissance des idées et la connaissance de la vie et du vivant. C'est pourquoi il a orienté ses recherches
sur l'épistémologie.
Il a orienté ses recherches du côté des sciences et des techniques, mais aussi, c'est qu'on sait moins, du côté des philosophies de la nature, qui est un genre peu pratiqué en France, mais beaucoup en Allemagne, avec Hegel en particulier. Et son intérêt pour les philosophes du XVIIIe siècle, comme Bernardin de Saint-Pierre notamment, et sa conception du vivant dans le sillage de son maître Canguilhem, font de lui un philosophe-chercheur à la pensée très originale.
Très bien. Merci Anne Brusmich, je suis désolé, je suis obligé de vous couper. Alors donc, je rappelle, ça se passe le mercredi 26 mars 2025 au lycée d'Audet, de 14 à 17h. Voilà. Et on fait une pause musicale. Thank you.
Oui, donc pour notre seconde partie de notre émission, je vous propose rencontrer notre écrivain Ahmed Youssef, historien originaire d'Alexandrie, romancier et ancien directeur du grand journal Al-Ahram, qui était le journal, on va dire, égyptien, Le Monde presque, avec son nouvel ouvrage consacré à Bonaparte, Napoléon, une passion arabe. Donc, auteur incontesté des études napoléoniennes, devenu le spécialiste de la campagne d'Égypte commencée le 1er juillet 1798 par Bonaparte, Ahmed Youssef nous compte dans ce livre un Napoléon qui est entré dans l'histoire du monde arabe. Ici, l'auteur nous entraîne sur la place qu'occupe Napoléon dans la culture arabe et musulmane d'aujourd'hui, avec une analyse passionnante à travers l'histoire, la littérature, la poésie, le cinéma, qui est un Bonaparte presque inconnu de nous, qui laisse visiblement une marque indélébile, y compris de l'Égypte moderne. Ce livre vient d'être primé par l'Académie des sciences morales et politiques françaises, ce qui lui donne un prestige inégalé, pour nous conter cette formidable mémoire vivante et qui inscrit Bonaparte encore aujourd'hui dans le cœur des Égyptiens du monde arabe moderne. Ahmed Youssef, on vous connaît pour votre fascination de l'Égypte et notamment pour votre incomparable connaissance de la campagne en Égypte menée par Bonaparte. Je suis très heureuse de vous avoir à nos micros. Qu'est-ce qui vous a amené, une fois de plus, à écrire un récit fascinant autour de ce Napoléon dans le cœur des Égyptiens, et pourquoi ce titre Bonaparte?
D'abord, merci madame de m'avoir invité à votre radio, à Radio Nîmes. J'aime beaucoup votre ville. J'étais au salon de livres récemment et le livre justement dont vous venez de parler a eu beaucoup de succès, la conférence et les signatures. Et c'était un marathon de signatures vraiment. Merci pour votre introduction qui est très juste, mais qui me fait plaisir évidemment. Il faut dire que nous parlons beaucoup de l'expédition de Bonaparte en Égypte, toujours de point de vue français. Et on a très peu de témoignages arabes, notamment égyptiens, dans nos écrits en France. Et donc j'ai décidé, presque 30 ans après la fascination de l'Égypte,
qui était un livre remarquable d'ailleurs.
Merci beaucoup, qui était sorti. Merci beaucoup vraiment à Isabelle. Mais vous savez, le livre a eu beaucoup de succès en 1998, mais il y a un autre qui était sorti quelques années après, en 2003, qui s'appelait Bonaparte et Mahomet. Mmh. Lui, il a eu vraiment beaucoup de succès. Il a été traduit en plusieurs langues. Alors, pour le livre qui vient d'être primé par l'Académie des sciences morales et politiques, c'est vrai, c'est une découverte pour le lecteur français ou francophone parce que il découvre ici un pan de la personnalité de Napoléon qui n'est pas tout à fait habituel dans nos écrits en France. Un Napoléon, disons, humain, pacifiste, alors que c'était un chef de guerre, conquérant. Il y avait un Napoléon qui essaye un peu d'universaliser les principes de la Révolution française, qui a un projet pour le monde arabe. Un Napoléon qui essaye d'introduire la modernité à la française dans le monde arabe. Et qui, donc, comme je le raconte dans mon livre, c'est un autre Napoléon qui n'est pas tout à fait celui uniquement chef de guerre, mais aussi un civilisateur et un apporteur de modernité à grande échelle, parce qu'il ne s'agit pas de l'Égypte, mais du monde arabe aussi.
Oui, et justement, quels ont été les principaux buts de Bonaparte à venir avec son armada, donc à faire une conquête en fait quand même de l'Égypte, malgré tout en Égypte, et qu'est-ce qu'il va laisser aux Égyptiens qui perdurent encore aujourd'hui? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont permis à la fois une relation entre la France et l'Égypte et l'Égypte et la France. Qu'est-ce qui nous donne en fait à voir, en plus de cette bien sûr campagne d'Égypte qui a été formidable?
Si vous voulez, ce qui caractérise viscéralement cette campagne d'Égypte, qui est une campagne militaire, c'est cette présence de savants français, toutes disciplines confondues, que Bonaparte a emmené avec lui. Ça veut dire là, c'est un fait inouï dans l'histoire, sans précédent, et qui marque cette expédition, parce que ces savants vont faire de l'Égypte tout un sentier de recherche, l'antiquité de l'Égypte, le présent de l'Égypte, le futur de l'Égypte. Évidemment, tout cela, si on place l'Égypte dans son contexte de l'époque, l'Égypte était une province ottomane qui était endormie complètement dans la torpeur de l'Empire ottoman. Il n'y avait ni médecine moderne, ni imprimerie, ni école moderne, ni même armée moderne, rien. Et Bonaparte arrive avec des écoles, avec le canal de Suez, le percement du canal de Suez, avec la découverte de l'égyptologie qui viendra un peu plus tard, avec la découverte de la pierre de Rosette, et tout ça. Donc, cet aspect scientifique de l'expédition, elle est immortelle et elle restera jusqu'à la fin du monde parce que c'est elle qui a fait l'Égypte moderne. C'est elle, c'est cet aspect qui a créé le monde arabe moderne. Hein. Quand vous voyez dans mon livre qu'il y a le projet du royaume arabe de Napoléon III, par exemple. Tout ça a fait l'Égypte moderne. D'ailleurs, nous deux maintenant, vous et moi, si nous sommes ensemble sur les ondes de votre radio, c'est que parce que il y a 200 ans et quelques, un certain Napoléon Bonaparte a fait la conquête de l'Égypte.
Oui, et puis il a amené, fait incroyable, l'imprimerie arabe au sein même de cette campagne scientifique et culturelle. Et puis il va nous apporter, comme vous l'avez dit, le canal de Suez, l'égyptologie dans le sillage de la découverte de la pierre de Rosette. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que constitue Bonaparte? Qu'est-ce qu'il nous enseigne du monde arabe aujourd'hui, en fait?
Vous voyez, pour le monde arabe en général, c'est d'abord la littérature ou le cinéma. Comme je le raconte dans mon livre, si nous prenons le cinéma, par exemple, on va trouver que le Liban, l'Égypte d'abord, évidemment, avec Youssef Chahine en 1985, et son fameux « Adieu Bonaparte ». Mais il y a, vous avez aussi au Liban, vous avez en Tunisie, il y a des séries de télévision arabes qui ont pris le personnage de Bonaparte et ont fait de lui tout un objet de série télévisée. Donc le monde arabe d'aujourd'hui s'intéresse à Bonaparte, son côté mythique, vous voyez, et son côté modernisateur notamment. C'est très important. Vous avez les écoles de filles, par exemple, en Tunisie, au Maroc, en Syrie même, au Liban. Ces écoles-là portent les noms des savants de l'expédition Bonaparte. Exemple, vous avez en Égypte, vous avez au Liban, vous avez les écoles, par exemple, Champollion. Nous avons en Égypte le centre culturel Monge, vous voyez, qui est le savant. Et donc, vous voyez, le monde arabe d'aujourd'hui s'intéresse encore aux personnages. Et moi, sur ma page Facebook, Ahmed Youssef France, j'ai publié ce matin même un tableau peint par un Égyptien d'aujourd'hui, un Égyptien qui vit au Caire, et qui représente Napoléon assis sur son trône. Vous voyez, pour vous dire à quel point même les peintres égyptiens s'intéressent encore à Napoléon.
Et justement, par exemple, c'est aussi le père des relations politiques et stratégiques entre l'Orient et l'Occident encore aujourd'hui. On a ce fameux cadeau qui a été donné par l'Égypte à la France avec l'obélisque de la place de la Concorde, l'introduction de la langue française en Orient, je crois savoir, hein, c'est ça, c'est cela, et puis qui devient un outil en fait presque de modernisation de la civilisation en Orient, c'est ce que vous voulez dire à travers cela. Et même qui a influencé, je crois, les armées françaises militaires avec l'influence de l'armée des Mamelouks, c'est cela, Ahmed?
Oui, ça veut dire il y a plusieurs choses là. Il faut dire que nous parlons là de l'impact scientifique, culturel, civilisationnel de cette campagne sur l'Égypte et le monde arabe. Mais cet impact est allé encore plus loin dans le domaine militaire, comme vous venez de le dire. Mm-hmm. Par exemple, au temps de Mohamed Ali, celui qui a succédé donc à l'armée française en Égypte, en 1805, Mohamed Ali a emprunté à la France ce modèle de modernisation. Mais vraiment, il a construit, il a bâti l'Égypte moderne sur le modèle français, avec l'aide des savants français, avec l'aide des élèves égyptiens qu'il a envoyés à Paris. Vous voyez, vous avez de 1805 jusqu'à 1850, l'Égypte moderne est née sur le modèle de la France. Et quand je dis la France, ça veut dire vraiment le modèle inspiré par Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, en 1840, le fils de Mohamed Ali, Ibrahim Pacha, est venu à Paris pour une visite officielle au roi Louis-Philippe. Et la première chose qu'il a faite quand il est arrivé à Paris, c'est d'aller se recueillir sur la tombe de Napoléon aux Invalides. Il y a là une presque filiation entre Ibrahim Pacha, qui était un grand chef militaire, qui avait un Français comme chef d'état-major, le colonel Serres, et qui, donc, dès qu'il arrive à Paris, il va aux Invalides se recueillir sur donc le tombe de l'empereur. C'est combien ce fait est révélateur de cette filiation à la fois politique, militaire et culturelle entre l'Égypte et la France.
Donc en fait, en quelque sorte, merci beaucoup Ahmed pour la présentation de votre livre, l'importance de Bonaparte dans la vie contemporaine de ce grand pays qu'est l'Égypte et la France, et ses relations, et on comprend mieux à travers ce livre, les relations et la nature des relations franco-égyptiennes qui, je crois, sont très bonnes encore aujourd'hui, et ce que l'Occident a apporté à ce grand pays qu'est l'Égypte. Alors, je vous propose, chers auditeurs et chères auditrices, de voir Bonaparte, Napoléon, une passion arabe aux éditions Passé Composé. Et merci beaucoup, Ahmed, d'être venu à nos micros, et à très très bientôt.
Merci, Isabelle. Au revoir.
Au revoir. Tant pis.
De retour dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes avec l'accent, et on continue avec Anne Brousmich. On parlait de cette conférence, cet anniversaire en fait de la naissance de ce philosophe. Et par contre, je vais lui demander de détailler donc un petit peu les interventions.
Oui, donc le programme est le suivant. Donc le lieu, c'est lycée d'Odès Alteris. La date, donc le mercredi 26 mars, l'horaire de 14h à 17h. Donc le programme se décompose. Il y a trois moments forts. D'abord, la partie biographique, la vie d'un philosophe, donc sur laquelle je vais faire une présentation. La deuxième partie, un pédagogue d'exception, donc il y a les témoignages d'anciens élèves. Il y en a 5 Nîmois plus un Dijonnais. 5 Nîmois, je cite les noms par ordre d'intervention. Pierre Chaptal, Marcel Laubier, François Abosit, Jean-Jacques Pélissier, Jean-Pierre Milovanov, qui, je sais, bon, a eu...
Son ancien élève.
Et tous étaient anciens élèves, mais voilà. Milovanov a pris Goncourt des lycéens, est un écrivain. Pascal Dumont, qui est un de ses élèves. Voilà. Le troisième et dernier moment, c'est le parcours philosophique, donc avec deux interventions de deux philosophes. D'une part, Pierre Guénantien, qui est spécialiste de Descartes en France, qui est professeur émérite de philosophie moderne à l'Université de Bourgogne et qui a été lauréat du prix 2024 des rencontres philosophiques de Monaco avec son livre « L'homme sans moi », essai sur l'identité. Et enfin, donc, conférence de Simone Mazurik qui pilote ce colloque, qui est philosophe et historienne des sciences et professeur honoraire à l'Université de Lorraine, et sur le sujet éthique et épistémologie. Et il y aura des questions, et évidemment, un débat à l'issue de la conférence.
Merci beaucoup, j'espère que les spectateurs viendront nombreux. Isabelle.
Bonjour, Mélissa Durand du Théâtre de Nîmes. Vous êtes à nos micros et vous allez venir de manière assez récurrente pour nous parler des différents spectacles du Théâtre de Nîmes durant toute l'année. Voilà, aujourd'hui, je voulais un petit peu avoir quelques précisions sur qu'est-ce que le Théâtre de Nîmes aujourd'hui, quelle est sa présentation, qu'est-ce qu'il développe en termes de programmation. Et on va parler bien évidemment des spectacles du mois de mars et du mois d'avril.
Oui, avec plaisir. Alors moi, j'aimerais vous parler d'un spectacle pour le jeune public.
Oui.
Qui s'appelle Dominique toute seule. Donc, c'est à partir de 7 ans.
Oui.
C'est un conte très sensible qui allie théâtre, musique, projection, qui est l'histoire de Dominique, qui a l'impression de disparaître au sens propre comme au sens figuré et qui va reprendre vie au fil de diverses rencontres un peu farfelues. Voilà, donc c'est très poétique. Ça parle de résilience et ça parle de choses actuelles, version jeune public. Voilà, c'est pour toute la famille.
Mmh. Et ça, c'est le mercredi 2 avril à 18h à la salle de l'Odéon, hein, c'est bien cela?
À la salle de l'Odéon, tout à fait. Et c'est accompagné par un atelier de théâtre qui est proposé par la Marie Burki, la metteuse en scène et l'autrice en fait du texte, qui permet aussi de découvrir l'univers de la pièce à travers le jeu, à travers des petites activités très ludiques. Voilà, c'est le mercredi 2 avril aussi, de 15h30 à 17h, c'est gratuit, sur inscription.
D'accord. Alors il y a aussi, bien évidemment, dans la poursuite de cela, c'est l'histoire d'un site. Je crois que ça, c'est vraiment un événement assez attendu, et non seulement par le public, mais aussi au sein du théâtre, parce que il y a une muséographie qui est plutôt assez audacieuse.
Tout à fait, oui. Alors, Histoire d'un Cid, bon, évidemment que tout le monde connaît, de Pierre Corneille, qui est ici retravaillé et mis en scène par Jean Bellorini. Donc, il y a quatre comédiens, et deux musiciens au plateau, clavier et percussion. Et en fait, là, Jean Bellorini a pris le parti de l'enfance pour parler de ce spectacle du point de vue un peu innocent d'un enfant et qui vont refaire entendre, en tout cas, le Cid, qui est un chef-d'œuvre de la littérature française, mais qui est là ici mis à porter un peu des plus jeunes. Donc je pense que c'est une pièce intéressante pour les collégiens, les lycéens et pour tous ceux qui connaissent déjà le Cid et qui veulent le redécouvrir en version participative et ludique. Et comme vous le disiez, effectivement, la scénographie est très originale, elle est mouvante. Et le château, par exemple, là, prend la forme d'un château gonflable qui va se gonfler, se dégonfler. Les effets techniques sont multiples aussi, il y a des projections vidéo, enfin il y a vraiment un gros jeu de mise en scène et un gros travail qui est visible par le public, ce qui est quand même rare.
Oui.
Il y a différents jeux d'échelle, voilà. Donc on retrouve quand même la langue de Corneille, les alexandrins et tout ça, mais on va aussi venir rigoler un peu avec la langue française, venir faire participer le public, voilà, réinterpréter un petit peu ce texte pour en faire un spectacle finalement interactif, drôle. Et puis voilà, c'est quand même une pièce assez sombre qui devient ici très solaire, voilà. Donc
oui, et je crois que Jean Bellorini, metteur en scène, est attaché aux grands textes dramatiques et littéraires et qu'il mêle relativement souvent et étroitement dans ses spectacles l'idée du théâtre et de la musique et l'insuffle ce qu'on appelle un esprit de troupe, je crois, et qu'il défend un théâtre à la fois poétique et populaire, il me semble bien.
Tout à fait. C'est quand même l'alliance parfaite d'un texte très classique et d'une pièce que tout le monde connaît. Tous les collégiens encore aujourd'hui travaillent sur le Cid en classe. Donc là, c'est réinterpréter un grand classique de la littérature dans une version plus contemporaine, que ce soit dans l'écriture, dans la réécriture, qui là est collective. Lui, il met en scène, mais il dirige ses comédiens et ses... et toute son équipe en fait pour faire une réécriture collective en fait du texte et pour en faire une version plus moderne en fait et plus accessible finalement. C'est ce qui en fait la particularité et qui rend ce spectacle particulièrement intéressant.
Oui, vivant. Et donc, je crois qu'il y a une dernière date à vous proposer. C'est donc le mercredi 9 et 10 avril prochain avec une nouvelle date du 11 avril prochain à 20h30 à Vergèze avec Collision. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail de metteur en scène et de texte de Nasser Djemaï?
Oui, tout à fait. Alors, Collision, c'est vrai que j'aime bien en parler parce que c'est un spectacle qui s'inscrit dans notre projet artistique. Le théâtre suit et développe ce projet en itinérance, c'est-à-dire de pouvoir proposer des spectacles qui se déplacent sur le territoire. Donc là, on propose deux dates donc chez nous au Petit Plateau, à Salle de l'Odéon, donc le 9 et le 10, comme vous l'avez dit. Et effectivement, le vendredi 11, pour la première fois, on va investir l'espace Vergèze à 20h30. Voilà, c'est la particularité. Donc on est content de pouvoir faire rayonner un petit peu nos spectacles en dehors de la ville en fait, et puis particulièrement avec Radouane Lessaï qui propose ce seul en scène en fait. Donc c'est quand même qui plus est un comédien acteur qui est bien connu, qui fait aussi de la télévision, qui a fait une série sur Netflix, en fait ça a quand même sa notoriété, et de pouvoir l'amener à Vergèze sur un territoire un peu plus éloigné, on est super on est très content. Son spectacle, donc le spectacle, donc oui, c'est Nasser Djemaï qui l'a écrit. Mmh. Un spectacle qui est très tendre et délicat, qui raconte en fait le parcours de Mehdi, qui est le 7e enfant d'une lignée de garçons dont la destinée était annoncée extraordinaire, mais qui, par les aléas de la vie, va prendre un tournant inattendu. Donc je vous dévoile pas évidemment la fin de l'histoire, mais c'est un personnage très attachant qui finalement pose une question importante et lourde, qui est: quel sens donnons-nous finalement à notre vie? Donc ça laisse à réfléchir, mais tout en restant très délicat, très poétique, et d'une très très belle performance scénique, un seul en scène quand même de Radouane.
Alors même si le théâtre est complet le mardi 8 avril, je voulais quand même que vous m'expliquiez Marco da Silva Ferreira très rapidement, parce que je crois que c'est vraiment, d'abord c'est un spectacle de danse, et la danse est un axe de travail, je crois, pour le théâtre de Nîmes très important et qui devrait se renforcer dans les années à venir. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors au Théâtre de Nîmes, c'est vrai qu'on est labellisé scène conventionnée d'intérêt national, art et création et danse contemporaine. Donc c'est vrai qu'on a une grande partie de la programmation qui est dédiée à la danse contemporaine. Marco da Silva Ferreira clairement illustre parfaitement cette lignée, puisque c'est un grand chorégraphe qui vient là avec Carcassa, oui. Qui est une pièce avec de nombreux danseurs au plateau. Il danse d'ailleurs lui aussi, il fait partie de la distribution. Donc c'est vrai que là c'est une grosse pièce, un gros monument de la danse contemporaine actuelle. Il y a 10 danseurs au plateau, donc c'est quand même des costumes dont je ne vous parle pas, mais qui sont électriques, et une musique très prenante. C'est un très beau spectacle qui rencontrera effectivement son public de passionnés.
Mélissa Durand, merci infiniment pour être venue à nos micros. Encore mille fois pardon pour ce petit contretemps technique. Et donc à très vite au mois d'avril.
Très bien, à très bientôt, merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Cuando la tarde languide se renace en las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languide se renace en las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languide se renace en las sombras. fetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Tarde languidece, renace en las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir, que en el letargo de la noche parece gemir, que en el letargo de la noche parece gemir.
Oui, alors j'aimerais rajouter qu'au Télémac, samedi 15 mars à 20h30 et dimanche 16 mars à 17h, il y aura un spectacle sur Bobby Lapointe. Alors ce sont deux personnes, il y a un chanteur, Damien Alibert, il y a un pianiste, Xavier Ferrand. Ils nous proposent ce spectacle-là, ils seront d'ailleurs ensuite au Festival d'Avignon du 16 au 26 juillet. Nous avons passé en première partie de l'émission un disque de Boomerang. Je rappelle que Boomerang s'est reformé et ils vont passer en ouverture de Fleetwood Mac au Secret Place samedi en 15.
Oui, alors donc il y a aussi une autre actualité, c'est celui du musée Carré d'Art avec l'exposition de Alexandra Kasuba qui a lieu jusqu'au 23 mars au Carré d'Art. Je vous incite à aller voir cette exposition qui est vraiment une artiste lituanienne mais qui est aussi américaine, qui a vécu toute sa vie aux États-Unis et qui nous apporte une réflexion sur le corps, la mise en place de nouvelles techniques de matière, l'équilibre architectural et de l'espace et de l'art contemporain. Voilà, merci beaucoup pour cette émission de L'Art Anime. Et une nouvelle fois, merci beaucoup Bernard.
Et merci Anne Brousmich de nous avoir fait le plaisir de votre présence. Et n'oubliez pas samedi, hein, samedi 26.
Mercredi 26
à la salle Théris au Dédo, au lycée Daudet. Au revoir.
Merci, au revoir.